Comment allez-vous? Tout le monde se porte bien? Par la grâce de Dieu, on peut demander ça parce que nous sommes une famille. Et je suis parti il y a longtemps et j'aimerais prendre vos nouvelles et savoir comment vous allez. J'ai appelé certains chez eux, mais d'autres je ne les ai pas vus. Alors on peut savoir comment vous allez et c'est bon. Si ça ne va pas, ben c'est la place pour le dire et puis on va prier pour vous. Amen. La maison de Dieu, c'est la place pour pleurer, pour rire, pour se réjouir ensemble et pour étaler notre état d'âme jusqu'à un certain point. Pourquoi? Parce que c'est là où Dieu est. David disait, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de... Parce que c'est là qu'il savait qu'il pouvait trouver réconfort pour sa vie. Amen. J'espère que ce matin, vous êtes dans la joie d'être ici. Alors, ce matin, il m'a été confié d'apporter l'enseignement sur l'Apocalypse, chapitre 3, à partir du verset 14 au verset 22. Notre texte d'aujourd'hui. Mais bien avant cela, j'aimerais quand même aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui nous visitent ici pour la première fois ou qui se joignent à nous pour la deuxième partie du culte. Que vous soyez bénis avec nous ce matin et que le Seigneur vous fortifie, qu'ensemble nous puissions apprendre des choses de notre Dieu et qui vont changer et transformer notre vie pour sa gloire et pour l'avancement du royaume des cieux ici-bas. Alors, j'ai d'autres annonces aussi à vous dire, un bon petit témoignage. La semaine dernière, j'étais parti au Nouveau-Brunswick pour installer mon neveu qui est venu pour étudier en administration, en marketing au Nouveau-Brunswick. Pour ceux qui ne le savent pas, notre sœur Vivi est au Nouveau-Brunswick, Vivi Kofi. Et elle travaille là-bas. J'ai été hébergé par elle. Quand on est arrivé, elle a eu un petit problème de santé, mais tout est rentré dans l'ordre. Mais ce que j'aimerais que vous sachiez, notre sœur, elle est là-bas pour enseigner, mais elle fait les deux. Elle fait l'œuvre de Dieu. Quatre professeurs ont connu le Seigneur au travers d'elle. Elle affiche sa foi. Elle n'a pas peur, elle n'a pas honte. Et j'ai été émerveillé. Je pensais que je partais installer mon neveu, mais ça a été des soirées et des journées d'enseignement et d'instruction. Et il fallait montrer à ces gens-là, à ces personnes-là, comment approcher l'Écriture, les principes élémentaires de l'interprétation des Écritures. Et j'ai passé mon temps à parler de ça avec eux, les exhorter, les édifier. Priez pour notre sœur, qu'elle continue d'être un flambeau là-bas. Elle m'a dit une parole, elle m'a dit, Adama, mon passage au Cap de la Madeleine a été un temps de formation pour moi. Et maintenant, Dieu est en train de m'utiliser là pour sa gloire. Amen. Ça sont les bonnes nouvelles que je vous laisse de sa part. Et que moi j'ai vu, que je partage aussi avec vous. Alors, il est question ce matin de parler de cette église. Nous avons commencé une série d'études sur les sept lettres qui sont envoyées aux sept églises de l'Apocalypse. Et je pense qu'on va commencer, on va le regarder, j'ai l'honneur ou la joie de terminer avec le dernier livre aujourd'hui. Alors, on va voir le plan d'action que j'ai ici. C'est parti vite. Alors, comme j'ai fait l'introduction déjà, la mise en contexte, les destinataires de la lettre, l'auteur, et le contenu de la lettre. C'est normal, quand on reçoit une lettre, on va savoir c'est qui nous envoie, de quoi est-ce que cette lettre parle et d'où vient-elle. Alors, on va parler de tout cela tantôt. Et la conclusion avec quelques applications, si Dieu nous le permet. Alors, donc, sans plus tarder, j'aimerais que nous regardions un peu dans l'introduction ici, j'aimerais que nous regardions un peu la carte elle-même dans son contexte. Les églises de Laodicée, les églises de l'Apocalypse se trouvaient dans cette région. Et l'apôtre Jean, lui, il était réellement à l'île de Patmos ici. Il était emprisonné là et il a décidé d'envoyer, pas par sa propre décision personnelle, mais par l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu lui dit, envoie, écris aux églises de l'Apocalypse. Et de cette région de la Turquie qui sont Éphèse, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Écris-les de ma part et informe-les de ce que moi je pense d'eux et de ce que je les reproche et de ce que j'attends d'eux. Et c'est ainsi qu'il va écrire. La lettre va cheminer de cette façon, comme vous voyez les flèches, pas parce que ça a été fait exprès, simplement parce que les voies, les routes pour arriver là-bas passaient par ce côté. Donc, ils ont suivi seulement l'itinéraire. Le facteur devait aller d'une situation à l'autre, d'une porte à l'autre. Ben, la tracée est faite et puis ils ont suivi ça. Alors, si nous regardons à la Odyssée, ici, nous regardons cette deuxième carte qui est réellement géographiquement ou historiquement parlant. Et ces églises-là, on voit que la Odyssée était située entre... Oh, je suis parti plus loin. Excusez. Ah, il faut que j'avance, oui. Parce que la machine... Voilà. Je cherchais le petit pointeur. Excusez-moi. Alors, on voit Laodicée ici dans sa position. Laodicée est placée entre Hiérapolis et Colosse, mais quand même un peu à 60 km d'Éphèse et à 65 km à peu près de Philadelphie. Alors, donc, c'est une église qui reçoit le message de Dieu, mais cette église-là, elle ne reçoit pas des éloges comme les autres églises. Elle est critiquée très sévèrement. Le Seigneur est déçu de cette église. Le Seigneur est en dégoût avec cette église. Le Seigneur, pour dire en bon québécois, est en fusil avec cette église-là. Et il n'était pas du tout de bonne humeur. Et il ne va pas aller avec le dos de la cuillère, il va aller droit au but et puis il va reprendre l'église sévèrement. Et après avoir donné à toutes les églises, voilà ce que tu es, voilà ce que tu as fait, voilà ce que je reconnais de toi et voilà ce que je suis fier de toi, mais voilà ce que je te reproche. Mais à cette église, il n'y a pas d'éloge, il n'y a que des reproches. Le Seigneur ne lui fait aucun, il n'y a pas d'éloge pour elle. On ne lui dit pas « bravo, tu es fin, tu es gentil ». Je dis « mais écoute, nous les humains, on aime quand on nous félicite, on nous encourage ». Mais eux, ils ne reçoivent pas d'éloges. Ils sont attaqués de plein pied par le Seigneur parce qu'ils n'aiment pas leur façon de vivre. Si je vous posais la question, depuis votre conversion ou depuis notre conversion jusqu'à aujourd'hui, quand on est né de nouveau, on avait de la joie, on est zélé, on est fougueux pour Dieu, est-ce que nous le sommes encore aujourd'hui? Est-ce que l'église du Cap de la Madeleine est encore fougueuse, bouillant pour Dieu, ou bien c'est une église tiède? Parce que ce que Dieu va reprocher à cette église, c'est sa tiédeur. Son conformisme et puis le fait qu'il est dans un confort et dans sa satisfaction de soi. Dieu va lui reprocher tout cela. Mais on va ouvrir nos écritures, on va lire la parole de Dieu dans ce sens-là. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. On le lit ensemble, s'il vous plaît. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le prince de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi je vais te vomir. Puisque tu n'es ni froid ni bouillant, ainsi que tu es tiède et que tu n'es ni bouillant, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu de la honte de ta nudité, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois plutôt. Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, j'aimerais qu'on regarde un peu l'Apocalypse et l'église de Laodicée. C'est quoi cette église-là? Elle est située où? On vient de voir la place. L'église de Laodicée était une église très riche. Elle était très, très riche, économiquement, matériellement, à tous les niveaux. C'était une église, et c'était une ville, premièrement, avant l'église elle-même, c'était une ville qui était riche et son économie reposait réellement sur trois choses. Premièrement, sur les banques. Il avait déjà une institution financière, plusieurs institutions financières dans la ville. Et deuxièmement, l'économie de l'église et de la ville était basée sur de la textile. Et ils avaient assez de laine chez eux pour pouvoir faire des habits. Comme on dirait à Trois-Rivières, on a assez de bois et l'économie de la ville était basée à Trois-Rivières sur du bois, n'est-ce pas? Alors les scieries et les usines. Et là-bas, c'était de la laine. Ils en avaient. Et troisième chose sur laquelle ils étaient connus, c'était aussi leur faculté de médecine pour les yeux. Et dans ce pays-là, ils étaient en avant-gardiste, ils étaient en avant de tout. On pourrait dire au niveau des banques, ils étaient quasiment comme la Suisse ou de notre monde d'aujourd'hui. Et qu'au niveau technologique, on pourra les comparer probablement à la Chine ou à d'autres pays aujourd'hui qui sont émergents, qui avancent ou qui sont avant-gardistes, qui vont de l'avant. Et on pourra aussi parler qu'au niveau de leur médecine, ils étaient en avance sur tous les gens ou sur toutes les villes ou toutes les régions de l'emplacement où ils étaient. Parce qu'à cette époque, il n'y avait pas de médicaments pour les yeux. Eux, ils avaient découvert un médicament qu'on appelle le collyre, qu'ils l'utilisaient pour guérir les yeux. Quand il y avait des maladies, il n'y avait pas des ophtalmologues à cette époque-là. Alors, comme on l'a aujourd'hui, on n'avait pas accès à des lunettes, on n'avait pas accès à ces ophtalmologues pour pouvoir se faire traiter. Mais eux, ils ont trouvé le secret, comment soigner les yeux. Et ils se sont enrichis. Et en dehors de ça, ils avaient tant d'autres choses, des grands stades, des choses spectaculaires qu'ils avaient dans leur ville. Ils étaient vraiment riches, nantis. Mais cependant, cette église, malgré cette grande richesse qu'elle avait, le Seigneur avait quelque chose à lui reprocher. Si la ville était riche, mais l'église aussi était riche, parce que les habitants de la ville venaient dans l'église. Ils avaient aussi des biens. Ils étaient confortables dans l'église. Ils ne manquaient de rien selon ce qu'eux-mêmes ils disent. Mais le Seigneur va les reprendre. Alors, nous allons voir ici. Comme j'ai parlé tantôt, j'ai dépassé ça. Alors, le Seigneur dit, écris à l'ange de l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Le mot angelios voudrait dire messager. Messager de Dieu. Alors ici, nous croyons que quand le message, le Seigneur dit écrit à l'ange de l'église de Laodicée, nous ne croyons pas qu'il y avait des anges qui étaient assis dans l'église et qu'on leur écrivait une lettre pour parler que ces anges-là dirigeaient l'église. Non, nous croyons que ces anges-là, il s'agissait des dirigeants, des leaders, ou un ou plusieurs leaders qui dirigeaient l'église, et Dieu dit, adresse-toi à eux. Écris de ma part à ces gens-là. Parle-leur. Mais qu'est-ce que le Seigneur leur dit? Il parle quoi? Quand il dit, parle-leur. Et le Seigneur va se révéler à eux. Comment? Il dit, voici, je suis l'Amen, le témoin fidèle, le véritable, le commencement de la création de Dieu. Le mot « Amen » voudrait dire quoi? Qu'il en soit ainsi. Dieu se révèle à cette église-là et dit « Moi, je suis l'Amen. Je suis l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Je suis le « Ainsi soit-il de Dieu. Je suis le véritable, je suis la vérité. Je suis ce qui dit « Oui ». Quand Dieu dit « Amen » au ciel, tout cela est accompli en moi. Je suis la personne incarnée de la vérité de Dieu. Il n'y en a pas d'autre. Alors je vous parle. Je suis l'Amen. Et il vient. Je suis le témoin fidèle, celui qui n'est pas capable de mentir. Un témoin doit témoigner. Vous êtes d'accord avec moi? Un témoin, quand il parle pour une cause, il doit témoigner. Et nous savons que dans nos tribunaux, on dit que le témoin doit prêter serment. Il jure en disant qu'il va dire toute la, et rien que la. Mais Jésus dit que lui, il est témoin fidèle et véritable. Il n'y a pas de fraude en lui. Il va dire toute la vérité. Toute la vérité sur la condition de l'église de Laodicée. Toute la vérité sur eux, sur leur vie et sur leur façon de faire qui lui déplaît. Mais c'est son être aussi. Il est comme ça. Il dit, je suis le commencement de la création. Dans d'autres versions de la Bible, il dit le principe de la création. Celui qui est à l'origine de tout. Celui par qui tout a été fait. Celui par qui tout existe. Et celui pour qui tout est créé. Amen. Il dit, je suis le commencement de la création de Dieu. Pourquoi il dit tout cela à cette église-là? Pourquoi avait-il besoin de se présenter avec tout un CV comme ça? Parce qu'il voulait les reprendre. Il voulait les préparer. Ils étaient faux. Ils étaient dans un milieu qui était faux. Ils vivaient réellement dans l'illusion. Alors il va dire, moi là, je ne vis pas dans l'illusion. Je suis réel. Je suis vrai. Et ce que je veux vous rapprocher là, ce que je veux vous dire là, c'est la vérité. Et je crois que vous devez ouvrir les oreilles pour bien écouter. C'est ce que le Seigneur était en train de dire à l'église de Laodicée. Alors, ce que le Seigneur sait de cette église, il dit, je sais, je connais tes œuvres. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Il dit, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid, ni bouillant. Puisque tu n'es pas, puisses-tu être froid ou bouillant? Je connais tes œuvres. Je connais ta conduite. Je connais ce que tu fais dans le secret. Je sais aussi ce que tu ne fais pas. Je connais ta tiédeur. Je sais que tu n'es pas chaud, que tu n'es pas froid. Je connais que tu aimes jouer au yo-yo. Je connais ce que tu vis tous les jours. C'est ça qu'il est en train de dire à l'église de Laodicée. Je te connais. Le Seigneur connaît aussi ce matin l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Il connaît ceux qui s'amusent ou ceux qui font du sérieux. Il connaît aussi ceux qui marchent droit pour lui. Si nous venons ce matin pour venir chauffer les bancs, si nous venons pour nous faire voir, si nous venons par tradition, par commodité, par respect pour les autres, mais le Seigneur connaît les raisons pour lesquelles tu es ici. Il connaît la tiédeur de ton cœur ou la chaleur de ton cœur. Le mien aussi. Il dit, je te connais. Je connais. Quoi il connaît de lui? Je sais que tu n'es pas chaud. Je sais que tu n'es pas froid. Ce que tu es, c'est que tu es tiède. Tu es tiède. Mais c'est quoi la tiédeur? Si je vous demandais ce matin, qu'est-ce que la tiédeur? Nous sommes dans un milieu québécois nord-américain où il fait froid. Ce matin, il ne fait pas froid, il fait chaud parce que je vois des gens se ventiler. C'est normal. Mais quand l'hiver arrive, il fait froid. Personne ne veut boire quelque chose de tiède en ce moment-là. On veut quelque chose de chaud. Mais maintenant qu'il fait chaud, tout le monde veut avoir quelque chose qui rafraîchit, qui est froid. Alors la tiédeur, c'est entre les deux. Quand on dit quelque chose qui est tiède, c'est quelque chose qui n'est ni chaud, qui n'est ni froid. Il est entre les deux. Et dans notre société aujourd'hui, qu'est-ce qu'on aime faire? On aime souvent être entre les deux. On ne veut pas prendre position. On veut être entre les deux. Je ne veux pas déplaire à Jacques et plaire à Jean. Je ne vais pas non plus déplaire à Jean et plaire à Jacques. Alors qu'est-ce que je fais? Je dis, moi je suis au milieu, je vous aime tous les deux. Même quand c'est nécessaire que je fasse un choix. Et cette église ne voulait pas faire de choix. C'est pourquoi le Seigneur la reprend en disant, tu n'es ni chaud, ni bouillant. Tu es une église tiède. Nous pouvons comprendre qu'il y a des situations. Quand il n'y a pas de péché, on n'a pas besoin de faire un choix tout le temps. Mais il y a des situations aussi qu'on a besoin de faire un choix. Et cette église avait besoin surtout quand il s'agit de notre relation avec Dieu. On ne peut pas s'amuser avec cela. S'il faut passer toutes ces années à l'assemblée ici, Maurice Ricard, ça fait combien de temps que vous êtes chrétien? 1949. Ok. Vous n'êtes pas d'aujourd'hui, vous. C'est bien. Alors, vous marchez droit avec Dieu, vous essayez de faire tout ce que vous voulez pour plaire à Dieu. Imaginez-vous si notre frère, depuis 1949, marche avec le Seigneur et qu'il était tiède, qu'il n'était pas un chrétien sérieux. Je pense qu'il risque de voir des surprises au ciel. Il risque d'être surpris au ciel. Mais ce n'est pas ce qu'on veut. Nous croyons que notre frère marche droit avec le Seigneur. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Nous ne pouvons pas venir à l'assemblée, passer notre temps à chanter, à acclamer, à faire des ministères, à servir dans la maison de Dieu, et puis aller ne pas faire partie du party de Dieu. Ah, moi, je n'aimerais pas ça. Y a-t-il quelqu'un qui aime ça? Non. On veut tous faire partie de ce party-là. Alors, l'Église, ce que Jésus-Christ savait de cette Église, il savait qu'elle était froide, il savait qu'elle était tiède. Et ce que Jésus-Christ reproche à cette Église, c'est quoi? Il reproche à cette Église-là son autosatisfaction. Au verset 17, il dit, « Parce que tu dis, je n'ai besoin de rien, je suis riche et je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien. » C'est une Église qui était satisfaite d'elle-même. Elle avait tout le luxe qu'elle voulait. Elle était confortable. Je peux vous montrer une image ici. Ah, mon image n'est pas là. Voyons. Ok, je pense qu'on va revenir dessus. Elle était confortable à l'intérieur de l'église. Mais le Seigneur lui dit, tu es satisfait de ta condition. Pour elle, le fait qu'elle est confortable, elle est riche, est un synonyme de l'approbation de Dieu, de la bénédiction de Dieu, et qu'elle était approuvée, qu'elle va au ciel. Elle confondait sa sécurité matérielle par rapport à sa sécurité spirituelle avec Dieu. Je ne suis pas en train de dire ici qu'avoir le bien matériel, c'est un péché. Loin de moi cette pensée. Mais c'est simplement nous dire que quand le bien matériel remplace notre sécurité spirituelle devant Dieu, ça devient dangereux, il y a un problème. Alors, le Seigneur parle à cette église. Il dit, il est satisfait. Alors, il lui reproche sa satisfaction. Dans ce sens-là, on peut avancer. Je suis parti plus loin par rapport à mes feuilles. Alors, il lui dit, puisque tu es tiède, moi, Dieu, je vais te vomir de ma bouche. Je vais te vomir. Puisque tu n'es ni chaud ni froide, je vais te vomir. Je ne te garderai pas de ma bouche. Je te sortirai de là. Et le Seigneur fait allusion en disant cela à cette église-là, qu'elle est froide et qu'elle n'est pas chaude qui va la vomir. Il fait allusion réellement à l'état de la ville de Laodicée elle-même. Laodicée était une ville qui n'avait pas d'eau. Elle était riche, mais son seul problème et son seul défaut qu'elle avait, ou sa seule faiblesse, c'était qu'elle manquait d'eau de tous bords, de tous côtés. Elle n'avait pas d'eau douce. Donc, elle était obligée d'aller chercher de l'eau dans les autres régions éloignées, à 20 km de Laodicée, pour pouvoir ravitailler sa population. Donc, de ce fait-là, et à Hierapolis, il y avait de l'eau chaude qui sortait de la terre. À Colosse, il y avait de l'eau douce qui était là. Mais à Laodicée, il n'y avait pas d'eau. Donc, comme ils partaient chercher de l'eau à une vingtaine de kilomètres, ils ont dû, avec les autorités, faire des canevas, des canalisations pour pouvoir amener de l'eau. Mais quand l'eau roulait, parcourait la distance de 20 kilomètres avant d'arriver là, qu'est-ce qui se passait? Ça se réchauffait. Et quand ils buvaient, ça arrivait que certaines personnes vomissaient. Et c'est par rapport à ce parallèle-là que le Seigneur va prendre leur condition, une situation qu'ils vivent, qu'ils connaissent dans la ville, il va prendre ça pour appliquer à leur état spirituel. En disant, vous n'êtes pas chaud, vous n'êtes pas froid. C'est-à-dire que quoi? À Héréopolis, l'eau là-bas, on pouvait utiliser cela pour soigner des malades. L'eau chaude qui sortait de la terre, ça avait des vertus thérapeutiques. Mais à Laodicée, ça rafraîchissait les gens. On pouvait se désaltérer de cette eau. Mais celle qui venait à Laodicée ne donnait absolument rien. On ne pouvait rien faire avec. Et c'est pourquoi le Seigneur dit, je vais vous vomir de ma bouche. Vous êtes tiède. Vous n'êtes pas chaud. Vous n'êtes pas froid. C'est-à-dire, si vous étiez chaud, au moins on peut faire quelque chose de ça. Si vous étiez frais, froid, on peut aussi faire quelque chose de ça. Mais l'eau tiède, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre de ça? Votre condition spirituelle, c'est ça. J'ai le goût de vous vomir. J'ai le goût de vous mettre dehors. Votre vie spirituelle me donne de la nausée. C'est ce que le Seigneur disait à Laodicée. On peut se poser la question, à quoi ressemble notre vie spirituelle, nous, comme chrétiens? Comme communauté chrétienne au Cap de la Madeleine, comme enfant de Dieu, comme membre de la famille, individuellement et collectivement, à quoi ressemble notre vie spirituelle? Nous continuons. Et il les reprochait non seulement leur autosatisfaction aussi, mais aussi il leur reprochait leur inconscience. Il dit, tu dis que tu es riche? Tu dis que tu t'es enrichi? Tu dis que tu n'as besoin de rien? Mais je veux que tu saches que tu manques de tout. Tu n'as rien. Tu es riche matériellement, mais spirituellement, tu es pauvre. À l'inverse de l'église de Smyrne, et ils étaient pauvres matériellement, mais ils étaient riches intérieurement. Mais toi, c'est l'inverse. Tu te bases sur ta richesse matérielle, mais je veux te dire que tu es pauvre, que tu es malheureux, et que tu es misérable, que tu es pauvre, aveugle et nu. Hey, je n'aimerais pas être dans leur place parce que je vais devenir petit. Votre patron vous appelle dans son bureau et puis il vous sort ces mots-là. Tau, 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 tau. Quand tu rentres à la maison, c'est un burn-out. C'est certain que c'est un burn-out. Mais Dieu les reprend sévèrement. Voilà ce que vous êtes. Et c'est ce que je vais vous dire que vous êtes. Les gens de Laodicée n'avaient pas un bon regard pour eux-mêmes. Ils ne connaissaient pas leurs conditions. Ils avaient une mauvaise analyse de leur propre vie. Ils pensaient qu'ils étaient beaux. Ils pensaient qu'ils étaient fins. Ils pensaient qu'ils étaient bien vêtus. Ils avaient des habits. Ils avaient des institutions bancaires. Et ils avaient aussi une belle école de pharmacie dans leur pays, de médecine. Ils avaient tout ça. Ils pensaient qu'eux, il n'y avait rien à leur reprocher. Mais Dieu dit, ta condition est pire que tu penses. Ce matin, des fois, il peut arriver qu'on peut penser parce qu'on est jeune ou parce qu'on est dans un certain poste rang social. On peut penser que nous occupons une certaine occupation dans la maison de Dieu ou à l'extérieur de la maison de Dieu. Et tout cela peut être bien. Mais si tu te définis, si tu définis ta santé spirituelle, par rapport à ta position sociale, par rapport à tes diplômes accumulés, par rapport à ce que tu fais, je pense que tu te leurres parce que ce n'est pas ce que Dieu dira de toi. Parce que Dieu a d'autres mesures pour évaluer ta santé spirituelle et ma santé spirituelle. Amen. Et c'est ça que nous devons comprendre et faire attention. Ce matin, ma prière est que Dieu nous aide vraiment à nous voir dans quel état nous sommes, à voir notre vrai état et à fonctionner et à marcher et à répondre aux besoins que Dieu attend de nous par rapport à ce qu'il dit de l'église de Laodicée. Alors, quand nous regardons réellement, nous continuons, nous pouvons regarder dans le verset 17 que je viens de lire. Il dit, parce que j'ai dit, je suis riche. On va aller au verset 18, s'il vous plaît. Au verset 18, et le Seigneur parle encore à ce passage-là. Il demande quelque chose à cette église. Leur inconscience, mais aussi ce que le Seigneur leur conseille de faire. Il les encourage à prendre position. Il les conseille, ce que le Seigneur conseille à cette église. Il dit, je te conseille. Il ne dit pas, je te donne l'ordre à partir de maintenant, il faut que tu fasses ça. Non, non, non. Dieu est un gentleman. Il donne la liberté. Malgré qu'il est le Dieu tout-puissant, capable de tout faire, comme il s'est révélé à cette église-là, il était capable de dire un seul mot et puis ils vont disparaître. Mais il ne donne pas des ordres, il les exhorte. Il les conseille. Il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Tu es riche, tes banques sont pleines d'argent et d'or, mais ça n'est rien par rapport à ce que moi je te demande. Je veux que tu te sanctifies et que tu mets ta vie en ordre. Laodicée. Et que tu achètes de moi des vêtements blancs. Oui, tu avais une usine de textile qui envoyait tes habits partout, de la laine partout, des beaux habits que vous faites partout. Et tout le monde était bien habillé dans ta ville. Mais moi, je vous dis que vous êtes nus. Parce que vous croyez que vous êtes habillé, mais vous êtes nus spirituellement. Alors de cela, je vous demande d'acheter des vêtements blancs. Dans la parole de Dieu, le vêtement a toujours été représenté comme la justice de Dieu. Dans Ésaïe 64, la parole de Dieu nous dit, verset 5, et nous dit que la justice d'un homme est comme un vêtement souillé devant Dieu. Il compare cette justice-là à un vêtement. Et ici, il dit, achetez chez moi un vêtement blanc. Fiez-vous à ma justice. Lâchez vos richesses et venez et prenez-moi ma justice pour être justifié devant Dieu, pour être agréé. Et il va et continue. Il dit, afin de couvrir ta nudité, mais que ta nudité ne paraisse pas. Mais après, il dit, achète un collier pour oindre tes yeux. Les médicaments qu'ils utilisaient pour guérir les malades, les problèmes d'yeux dans la région. Vous avez une belle école de médecine. Cependant, vous êtes tous des aveugles. Vous soignez les malades, les aveugles des autres régions, et vous ne voyez pas vous-même. Comment l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine? Comment chacun de vous et moi-même, quelle est la perception que nous avons de nous-mêmes ce matin? Sommes-nous aveugles au point que nous ne voyons pas nos problèmes spirituels, notre lacune, notre faiblesse? Ou bien nous sommes conscients vraiment de notre situation et de notre état spirituel et que nous nous levons pour aller devant le Seigneur et chercher et plaider pour trouver une solution? C'est ça que le Seigneur dit à cette église. Voilà ce que je te conseille que tu dois faire. Trois affaires. Lâche tes richesses qui te donnent une fausse sécurité et viens acheter la sécurité chez moi. Revêts-toi de ma justice et non de ta justice. Et soigne tes yeux. Viens que je te soigne pour que tu puisses voir maintenant qui tu es. Et comme ça, quand tu pourras bien te percevoir, tu sauras quoi faire comme mouvement. Vous savez, mes frères et sœurs, le problème que beaucoup de gens ne se repentent pas et que les gens ne se donnent pas au Seigneur, vous savez la raison c'est quoi? C'est parce qu'ils ne se voient pas eux-mêmes comme Dieu les voit. Le vrai problème, c'est parce qu'ils ne se voient pas eux-mêmes comme Dieu les voit. Parce que s'ils se voyaient comme Dieu les voit, s'ils étaient conscients de leur état d'âme et s'ils étaient conscients de ce qui les attend dans l'éternité, je vous assure que la salle là sera pleine et on va refouler le monde. On va refouler le monde dehors. Mais nous, comme chrétiens, le danger qui nous guette, c'est de croire que tout va bien, qu'on est confortable et que nous sommes à l'aise, on est impliqué par-ci, par-là, et que tout va bien, et négliger notre état spirituel. Le bien matériel. Aujourd'hui, ce qui peut rendre notre vie chrétienne tiède. On passe notre temps à courir. Je ne dis pas de ne pas travailler parce que la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Nous devons tous travailler, c'est important, c'est valorisant, c'est nécessaire. Mais nous passons souvent notre temps à courir, comme quelqu'un disait, à tirer le diable par la queue. et nous négligeons notre état spirituel. Et notre vie spirituelle dégringole. Et on peut se ramasser dans des conditions comme ça, comme l'église de Laodicée. Que Dieu nous garde de cela. Que nous ne sacrifions pas notre foi, notre relation intime avec Dieu sur l'autel de la carrière, sur l'autel de qui que ce soit, à part l'autel de Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Et en termes, quand on continue, il me dit, ici, qu'est-ce que Dieu promet à ceux qui sont vainqueurs? Non seulement il les demande d'acheter de lui, et il va leur dire que celui... Est-ce que je suis parti plus tôt? Excuse-moi. Oui. Et il demande, repens-toi. Verset 19. Repens-toi. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. L'exhortation qui est adressée, la repentance est la solution à la tiédeur. Si je suis tiède dans ma foi, si j'ai refroidi quelque part, la solution c'est de me repentir, et de venir à Dieu dans l'humilité et de me saisir pour aller de l'avant. Et nous continuons. Et il promet au verset 20, si on peut le dire comme ça, avançant, parce que j'ai sauté André, j'ai sauté le verset. Au verset 20, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Alors, le Seigneur exhorte l'Église à se repentir. Il exhorte cette Église-là à se repentir, mais il dit en même temps aussi à l'Église, malgré sa condition déplorable, malgré tout ce qui est en elle qui est dégoûtant pour Dieu, Dieu ne l'abandonne pas et dit, je suis à la porte, j'attends. Je ne viens pas faire ding, ding, ding et puis courir pour me cacher. Vous savez, des enfants font ça, hein? Quand il vient sonner à la porte de la maison, il sonne, puis il joue, puis tu sors, c'est qui? Il n'y a personne, ils sont cachés. Dieu dit non, je ne joue pas à ce jeu-là. Mais moi, je suis à la porte, je sonne et j'attends. Maurice a dit que la poignée est dedans. C'est ça? Alors, c'est qui l'ouvre? Alors donc, Jésus, il ne défonce pas ta porte pour entrer chez toi. Il te donne l'occasion d'ouvrir la porte toi-même. Si tu veux le recevoir. Il lance une invitation à cette église-là. Il dit, ta condition est détériorée. Mais moi, je tiens à la porte. Je me tiens à la porte et j'attends que tu ouvres la porte. Je te donne une seconde chance. La bonté de Dieu. Et dans le psaume 86, verset 15, il est écrit, dans cela, il dit, car toi, tu es un Dieu compatissant. Bon, riche en miséricorde, lent à la colère, et riche en miséricorde et en bonté, et en fidélité. Je paraphrase. Et cette bonté de Dieu, sa fidélité, sa miséricorde se manifestent devant la porte, le fait qu'il est à la porte, il attend. Et il frappe que tu ouvres. Ce matin, comme enfant de Dieu, premièrement, ce texte-là s'adresse à toi. Si ta voix, ta foi s'est refroidie, ma foi s'est refroidie, comme église, ça s'adresse à nous chrétiens, premièrement, parce que Jésus est à la porte d'une église, il frappe. Il dit, je vais encore entrer dans ta vie. Veux-tu me donner la permission de revenir prendre la place que j'ai besoin dans ta vie? Je vais communier avec toi et toi avec moi. Et nous allons communier ensemble dans l'éternité, ensemble, le grand jour au grand festin. On va faire le party ensemble. La vraie relation va être rétablie. Tant que Christ sera hors de ta vie ne sera pas agréable à Dieu. Tant que Christ sera hors de ta vie sera une vie misérable, une vie réellement qui n'a pas de sens, une vie de pauvreté, une vie de destruction. Mais quand Christ est dans ta vie, la richesse de Dieu est mieux que les richesses du monde. Parce que ça, ça change ton éternité. Si tu n'es pas chrétien, ce que je peux te dire, ce verset, on peut l'appliquer à toi, mais il y en a d'autres versets qu'on peut l'appliquer à toi. Dieu t'appelle. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. nul ne vient au Père que par moi. Et même ce verset aussi, Jésus reste là, il frappe aussi à ta porte. Si tu veux entrer, si tu le laisses entrer, il changera ta vie. Mais si tu ne le reçois pas, comme Maurice l'a dit, et d'autres personnes l'ont dit aussi avant, tu vas mourir pour aller en enfer parce que tu as été stupide. Pas parce que ton péché t'envoie en enfer, parce que tu as refusé d'accepter la solution de Dieu. La solution de Dieu, il veut que nous soyons sauvés, que notre vie soit régénérée. Et j'ai aimé ce truc qui frappait, j'ai dépassé, j'ai parlé tout ça. Excusez. Maintenant, dans l'ensemble de tout ça, qu'est-ce que ce texte nous enseigne? Au vainqueur, Jésus promet qu'ils vont s'asseoir avec lui sur le trône. L'Écriture nous dit que nous régnerons avec lui. Si nous avons été crucifiés avec lui, si nous sommes morts avec lui, nous ressusciterons avec lui. Dans Éphésiens, et il nous dit qu'on va régner aussi avec lui. Alors les vainqueurs auront une couronne. Ils vont régner avec le Seigneur. Le Seigneur promet cela. Nous régnerons ensemble. Pourquoi? Parce que lui, il a vaincu et puis il règne avec son Père sur le trône. Il s'est assis sur le trône et il dit, on va régner avec lui. Ce matin, ma question, veux-tu régner avec le Seigneur? Alors, mène le bon combat et triomphe et finis vainqueur. Finissons vainqueur. Ainsi, on va être sur le trône avec le Père. Toujours. Et là, ce que j'aimerais que nous comprenions, les dangers qui guettent l'Église et chaque chrétien, c'est ce que j'ai écrit. Que le Seigneur nous délivre de la tiédeur de l'église de Laodicée. Et ils étaient tièdes. Qu'il nous aide à sortir de là. Les dangers qui guettent ces églises-là, la parole nous a enseigné. Mes frères et mes collègues sont passés ici pour nous enseigner sur les 7 lettres qui ont été envoyées à ces églises-là, pour nous amener à comprendre que perdre son amour, le premier amour, c'est dangereux pour la vie de chrétien. Ce sont les dangers qui guettent chaque chrétien et chaque église. Comme ces églises-là ont connu cela. Et douter et redouter la souffrance, l'apostasie de la saine doctrine, c'est-à-dire laisser corrompre l'écriture ou se laisser corrompre, et ça c'est dangereux. Et s'éloigner de la moralité, hein, et la spiritualité, la mort, et c'est des choses vraiment qui sont dangereuses pour notre foi chrétienne. Nous avons été avertis par ces 7 églises, cette lettre-là, de nous tenir debout et de ne pas se laisser atteindre par ça. Et ni être refroidi et abandonner le Seigneur. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, à marcher droit pour lui. Que Dieu nous aide à ne pas tenir, à ne pas être tiède dans notre foi chrétienne. Ce matin, tu sais que si tu es tiède, le Seigneur n'approuve pas cette vie de tiédeur, ta vie spirituelle qui est tiède, qui est plate, qui est fade comme une sauce sans sel. Le Seigneur ne veut pas de ça. Mais il te donne la possibilité, il me donne la possibilité de changer notre condition. La première possibilité, c'est la repentance. Tout passe par là. Prendre soin et être conscient de notre état, nous regarder sous le regard de Dieu et se repentir et reprendre notre bâton de pèlerin et marcher de nouveau avec notre Dieu. Tant que tu n'es pas mort, la porte n'est pas fermée pour toi ni pour moi. Chacun de nous, nous pouvons encore remettre notre vie en ordre avec notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Prions. Seigneur notre Dieu, ce matin, tu es le seul qui connaît l'assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine.